Bonjour à toutes et à tous, Boker Tov. Tsahal arrête le chef à la sécurité intérieure du Hamas à Gaza en plein jour.
Les États-Unis lancent une nouvelle vague d'attaques intensives en Iran face aux derniers tirs contre les bases militaires américaines en Jordanie, au Bahreïn et en Irak.
Le torchon brûle entre Jérusalem et Londres. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, menace la Grande-Bretagne de représailles en cas de sanctions prises contre les localités juives de Judée-Samarie.
Et enfin, le 2 septembre 2025, en Belgique, le gouvernement s'était accordé sur une série de mesures dont la reconnaissance sous condition d'un État palestinien. Un an plus tard, où en est-on ? On vous dit tout dans ce journal. Tal arrête le chef de la sécurité intérieure du Hamas dans la bande de Gaza en plein jour.
Une opération digne d'un James Bond menée par Tzahal et les agents du Shin Bet contre Mouayin al-Arabid, le chef à la sécurité intérieure de l'organisation terroriste palestinienne. Au cours du raid, l'armée de l'air israélienne a mené des frappes sur plusieurs cibles militaires dans le secteur afin d'éliminer les menaces pesant sur les forces israéliennes. Aucun soldat israélien n'a été blessé lors de cette opération ô combien périlleuse, selon l'armée et le Shin Bet. Ce haut responsable terroriste s'était récemment employé à consolider le contrôle du Hamas sur le nord de la bande de Gaza et en ambitionné d'intensifier les attaques contre les troupes de Tzahal dans ce secteur. Le Premier ministre Netanyahou a tenu à féliciter l'ensemble des forces de sécurité impliquées pour la réussite de cette opération. Le défi maintenant, exploiter les renseignements qu'il détient sur les capacités militaires, les tunnels, les trafics et les projets d'attaque du Hamas. Sa capture pourrait produire des effets opérationnels importants et plonger le Hamas dans un profond sentiment de vulnérabilité.
Les sirènes d'alerte retentissent pour la première fois depuis le mois de juin dans le nord d'Israël.
Aucun blessé n'est à signaler. L'armée israélienne a indiqué il y a de cela quelques minutes que le Hezbollah avait tiré 2 drones en direction des forces de Tzahal, positionnées autour du site stratégique Ali Altaher. Des échanges de coups de feu ont opposé les soldats israéliens et les terroristes de l'organisation chiite libanaise. L'aviation de Tzahal a mené des frappes contre les infrastructures terroristes au sud Liban.
Et justement, dans ce contexte, Benjamin Netanyahou s'est entretenu hier à son bureau avec l'ambassadeur des États-Unis au Liban, Michel Issar.
L'ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, et le conseiller à la sécurité nationale, Shmuel Ben Ezra, participaient aussi à cette rencontre. L'entretien a porté sur le prochain round de discussion qui doit se dérouler après les fêtes de Rosh Hashanah, comme l'affirmait un haut responsable israélien à la rédaction de Radio Judaïka Bruxelles. C'était la semaine dernière. Lors de cette rencontre, le chef du gouvernement israélien aurait fait part de son mécontentement envers l'armée libanaise qui, selon lui, n'en ferait pas assez pour désarmer le Hezbollah dans les zones pilotes évacuées par Tzahal au sud du Liban. Et la question du jour pour demain, justement, a trait avec la situation au Liban. La reprise des négociations entre le Liban et Israël vous paraît-elle utile? Vous pouvez répondre sur nos différentes plateformes des réseaux sociaux.
La diplomatie syrienne assure œuvrer pour trouver une solution diplomatique avec Israël.
C'est ce qu'affirme le ministre syrien des Affaires étrangères Assad al-Shabani. Malgré des difficultés liées aux frappes israéliennes contre notre pays, nous restons attachés à l'option d'une solution diplomatique et nous travaillons sérieusement à y parvenir. Nous sommes engagés dans des négociations menées sous l'égide des États-Unis, a déclaré le chef de la diplomatie de Damas, qui a notamment confirmé la tenue des entretiens avec le chef du Mossad, Roman Goffman, notamment la semaine dernière, du côté de la Jordanie. Assad al-Shabani a en outre condamné les incursions israéliennes. Je cite en Syrie, les attaques se poursuivent. Nous avons observé 65 incursions rien qu'en juillet et 52 au cours des 18 premiers jours du mois d'août, a déclaré le ministre syrien lors d'une conférence de presse donnée avec son homologue danois en visite, Lars Løkke Rasmussen. Les États-Unis lancent une nouvelle vague d'attaques intensives en Iran, en représailles aux attaques des derniers jours sur la Jordanie notamment.
Le commandement central américain a déclaré avoir frappé cette nuit des cibles militaires en Iran en représailles aux attaques contre des navires et des forces américaines. Selon Axios, l'armée américaine a également frappé deux pétroliers iraniens. 13 missiles balistiques avaient été tirés sur une base militaire américaine en Jordanie hier, dont 10 interceptés par les systèmes de défense aérienne jordaniens. Les 3 restants ont été abattus dans des zones éloignées des centres de population. Une vaste attaque de drones iraniens a aussi eu lieu sur des entrepôts de matériel militaire américain à Erbil en Irak. L'Iran a menacé de riposter violemment contre les intérêts américains dans la région.
Sur les réseaux sociaux, Donald Trump a déclaré « Si la nation iranienne en échec ripostait à cette attaque tout à fait justifiée, elle serait à nouveau frappée de manière bien plus dure et à un niveau bien plus élevé. »
Cette nuit, il a ajouté un autre message sur son réseau Truth Social, s'interrogeant quand le peuple iranien se soulèvera-t-il et combattra-t-il? Il a également écrit qu'il ne cherchait pas à contraindre l'Iran à revenir à la table des négociations. Ça m'est complètement égal, a dit Donald Trump, ajoutant « J'aime davantage notre situation actuelle avec un contrôle total du détroit d'Hormuz et l'effondrement de l'économie iranienne ». Il joue avec l'inévitable. Le président américain a aussi partagé un article du New York Post sur son réseau affirmant qu'il était en train de gagner la guerre contre l'Iran. L'escalade actuelle a pourtant fait bondir le prix du pétrole et du gaz, tandis que Donald Trump continue de menacer Téhéran de frappes encore plus lourdes.
Enquête du Financial Times révèle que la Russie aurait secrètement aidé l'Iran à développer une nouvelle génération de missiles de croisière supersoniques capables de menacer les porte-avions et les navires de guerre américains au Moyen-Orient.
Oui, et c'est une enquête qui prouve que ce programme confidentiel baptisé C-430L aurait débuté en 2023. Le quotidien britannique s'appuie sur des correspondances ayant fuité des registres de déplacement et l'analyse de brevets militaires. Une coopération aurait été organisée avec une entreprise publique russe, Rosoboron Export, et un autre spécialiste russe des missiles placé déjà sous sanctions américaines. Des responsables et des ingénieurs russes se seraient rendus en Iran en 2023 et 2025 pour ce projet, dont le cœur concerne la mise au point d'un moteur ramjet permettant aux missiles de voler à environ 1200 à 6000 km/h. Combiné à une trajectoire à basse altitude, cette technologie réduit considérablement le temps disponible pour détecter et intercepter l'engin. Selon le Financial Times, l'Iran aurait déjà construit et testé son système de propulsion avec l'aide des spécialistes russes. En revanche, aucune preuve ne montre qu'un missile complet ait été déployé de manière opérationnelle. Cette révélation intervient quelques jours après le déplacement exceptionnel à Moscou du directeur de la CIA, John Ratcliffe. Celui-ci aurait notamment demandé à la Russie de réduire son soutien économique et militaire à Téhéran. Le chef du Shin Bet, David Zinni, rencontre le responsable du FBI, Kash Patel, à Washington.
Une rencontre qualifiée d'excellente par le patron de la police fédérale américaine où les deux hommes ont discuté du renforcement de la coopération sécuritaire entre Israël et les États-Unis. Au cours de cet entretien, David Zinni et Kash Patel ont partagé leurs renseignements en matière de lutte contre le terrorisme et sur le démantèlement des réseaux de financement des organisations terroristes. Ils ont également discuté du développement de capacités technologiques communes, en particulier dans le domaine de la détection et de la neutralisation des drones hostiles. Il s'agit de la première visite officielle connue de David Zinni aux États-Unis depuis son entrée en fonction à la tête du Shin Bet. C'était au mois d'octobre dernier.
Le Premier ministre Benjamin Netanyahou accuse les hauts responsables de la défense du pays d'avoir refusé intentionnellement de le réveiller la nuit du 6 au 7 octobre 2023.
Cette nuit-là, du 6 au 7 octobre 2023, les chefs militaires et de sécurité du pays ont estimé qu'en tant que généraux, ils étaient des hommes responsables et professionnels. Ils ont toujours considéré les politiciens comme des amateurs, y compris moi, le Premier ministre de l'État d'Israël. Et cette nuit-là, ils pensaient agir de manière responsable et suivre leur propre intuition, fondée sur leur propre savoir. Ils voulaient éviter toute erreur d'appréciation et pour éviter de commettre une erreur selon leur perception, ils ont préféré ne pas me réveiller, a déclaré Benjamin Netanyahou, tout en indiquant que s'il avait été réveillé à temps, il aurait exigé le déploiement de toutes les forces de l'armée israélienne, l'aviation, les forces maritimes et terrestres. J'aurais exigé de mettre toutes les forces de sécurité en alerte et c'est ce que redoutaient justement les responsables sécuritaires du pays. C'est la raison pour laquelle l'ensemble de ces généraux ont préféré ne rien me dire pour éviter de porter un coup fatal au Hamas, a affirmé le Premier ministre israélien sur l'antenne de la chaîne 14, qui s'est toutefois opposé à l'idée d'un complot fomenté contre lui par les généraux du pays. Le Premier ministre israélien a préféré parler, je le cite, d'échec des systèmes de défense de l'État hébreu le 7 octobre 2023, des précisions qui font suite à une interview donnée la veille par Sarah Netanyahou. L'épouse du Premier ministre israélien n'avait pas rejeté l'idée qu'il y ait pu avoir une trahison à l'origine de l'attaque du 7 octobre. « Je ne veux pas en parler, je ne sais pas, il faut qu'il y ait une vraie commission d'enquête », avait-elle déclaré, faisant largement polémique en Israël. Et le 2 septembre 2025, le gouvernement belge s'était accordé sur une série de mesures dont la reconnaissance sous condition d'un État palestinien. Un an plus tard, où en est-on ?
Plusieurs engagements de l'Arizona ont bien été appliqués du côté notamment de l'aide humanitaire. La Belgique a débloqué 12,5 millions d'euros supplémentaires, notamment par l'intermédiaire de l'UNRWA, la Croix-Rouge et les Nations Unies. Depuis le début de la guerre, 23 enfants malades et 72 accompagnateurs ont également été évacués vers la Belgique. Du côté des Mesure anti-Israël, le gouvernement a interdit le survol du territoire et les escales techniques aux avions transportant du matériel militaire destiné à l'État hébreu. Les services consulaires accordés aux Belges installés dans les implantations israéliennes ont été limités aux situations d'urgence. Et le parquet fédéral confirme également avoir ouvert plusieurs enquêtes sur des faits commis en Israël ou dans les territoires palestiniens. Du côté des autres mesures, un Green Shield a bien été appliqué. C'est l'opération qui mobilise l'armée depuis mars dernier et la police pour protéger les écoles, les synagogues et d'autres sites liés à la communauté juive. Le point central reste toujours en suspens. Pour l'instant, la Belgique n'a pas reconnu formellement l'État palestinien. L'antagonisme n'a pas bougé depuis l'an dernier. Voyrot, le CDNV et les engagés estiment qu'elle devrait reconnaître l'État palestinien. Le MR et la NVA s'y opposent. Le gouvernement attend de vérifier l'évolution de la gouvernance palestinienne et le retrait effectif du Hamas à Gaza, ce qui était la deuxième condition émise par la coalition avec la libération des otages. Les images publiées ce week-end montrent des colis alimentaires du PAM et d'autres organisations qui restent sans être récupérés dans la ville de Gaza, tandis que les habitants rapportent que la nourriture s'accumule dans les abris et est vendue à bas prix sur les marchés locaux. Ces images confirment ce que le COGAT affirme depuis toujours, le volume d'aide entrant à Gaza dépasse largement les besoins de la population. Les preuves provenant de l'intérieur, les conclusions de l'ONU et celles de la dernière enquête SMART de l'UNICEF, comme les données humanitaires du COGAT, indiquent tous la même réalité. Il n'y a pas de famine à Gaza. L'aide humanitaire est supérieure aux besoins actuellement. Les affirmations faisant état d'une famine et de pénurie ne sont pas étayées par les faits. Elles ne font que servir le Hamas et à fabriquer une fausse image de crise à Gaza. Une initiative européenne inquiète les autorités israéliennes, Jonathan.
Oui, 11 pays de l'Union européenne se sont unis pour réclamer le passage du système actuel fondé sur l'unanimité à un vote à la majorité qualifiée. L'importance d'un tel changement réside dans le fait qu'à l'avenir, un pays ne pourra plus à lui seul bloquer une décision prise par les autres États membres de l'UE. Actuellement, en matière de politique étrangère, chacun des 27 pays dispose d'un droit de veto pour bloquer une décision et l'unanimité des États membres est requise. Les pays à l'origine de cette initiative affirment que le recours au veto a souvent paralysé, je cite, l'action de l'UE sur la scène internationale ces dernières années. Parmi les pays soutenant cette réforme, on retrouve notamment la France et l'Allemagne. Dans une lettre adressée à la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, les pays concernés reconnaissent que le consensus entre États est une source importante de légitimité pour l'Union, mais insistent toutefois sur le fait que ce consensus doit permettre une action commune et non devenir, je cite, un instrument qui l'entrave et la paralyse. Cette question revêt une importance particulière pour Israël, car la grande majorité des débats sur la politique étrangère européenne apporte des sujets liés à la politique justement israélienne en Judée-Samarie. En cas de passage au vote à la majorité qualifiée, la possibilité pour un seul pays de bloquer des décisions par un veto sera ainsi considérablement réduite. Et en matière de climat, la Belgique doit investir 1,6 milliard d'euros par an pour s'adapter.
À l'approche des négociations budgétaires, la Commission européenne appelle les États membres à investir davantage pour se protéger contre les conséquences du changement climatique. Après un été marqué par les incendies, les inondations et les vagues de chaleur, le commissaire européen au climat prévient que les dépenses d'adaptation ne sont plus facultatives. Pour la Belgique, la Commission estime les investissements nécessaires à 1,6 milliard d'euros par an, dont 960 millions devraient servir pour les bâtiments, les réseaux et les infrastructures, 311 millions pour l'agriculture et l'alimentation, 221 millions pour les forêts, les sols et les écosystèmes et 115 millions pour la santé et l'aménagement des villes. La Commission affirme que ces dépenses pourraient être largement rentabilisées. Un investissement annuel comme celui demandé en Belgique permettrait à terme d'éviter des dégâts et de générer des bénéfices estimés à plus de 29 milliards. À l'échelle européenne, les dommages climatiques réduiraient déjà le PIB de 1% par an pour l'Europe tout entière. Cette perte pourrait atteindre 2,3% en 2050 et 7% à la fin du siècle. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, menace la Grande-Bretagne de représailles en cas de sanctions prises contre les localités juives de Judée-Samarie.
Si la Grande-Bretagne agit contre Israël, Israël agira contre la Grande-Bretagne, a déclaré Guy Dunsar en réponse aux menaces émises par le ministre britannique des Affaires étrangères Ed Miliband, qui a indiqué vouloir dévoiler dans les semaines à venir un ensemble de sanctions ciblant les localités juives de Judée, Samarie. En réponse à ce projet, nous avons un gouvernement qui agit systématiquement contre Israël. Il a déjà nui à nos exportations d'armes et imposé des sanctions à des ministres. Il est guidé par sa politique intérieure et le congrès du Parti travailliste se réunit à la fin du mois, a déclaré le chef de la diplomatie israélienne, qui a refusé de détailler les mesures de représailles que pourrait prendre Israël contre le Royaume-Uni. Il existe des moyens, je l'affirme clairement et sans équivoque. S'ils agissent, je pense qu'ils commettront une grave erreur. L'effet sera tout à fait contraire à ce qu'ils imaginent. Fin de citation. On est revenu sur ce dossier hier dans la matinale avec Simon Monk. Vous pouvez d'ailleurs retrouver cet entretien, comme tous les invités et émissions de la radio, sur le site radiojudaica.be et l'application Radio Judaïca.
La Banque d'Israël abaisse ses taux d'intérêt pour la quatrième fois cette année.
Un taux d'intérêt fixé désormais à 3,25%. Les chiffres des comptes nationaux du deuxième trimestre reflètent en partie la reprise de l'économie après l'impact de l'opération militaire contre l'Iran. L'incertitude demeure élevée compte tenu des tensions géopolitiques, indique la Banque centrale israélienne, qui ajoute toutefois que durant la période examinée, la prime de risque d'Israël est restée à des niveaux similaires à ceux d'avant le 7 octobre 2023 et le taux de change est demeuré pratiquement inchangé.
Un mot de politique intérieure israélienne à présent. Bezalel Smotrich et Moshe Feiglin scellent leur alliance en vue des prochaines élections, Jonathan.
Le ministre des Finances Bezalel Smotrich, chef du parti sioniste religieux, et Moshe Feiglin, président du parti Zehout, ont décidé hier d'officialiser leur alliance en vue du scrutin du 27 octobre prochain. L'heure des responsabilités a sonné, a déclaré le chef du Trésor, tout en appelant d'autres formations politiques du bloc de droite nationaliste à se joindre à leur alliance. J'en appelle ici à tous les partis du bloc national, prenez vos responsabilités et rejoignez-nous. Je veillerai à ce qu'aucune voix de la droite ne soit étouffée. L'avenir du camp national est en jeu, l'avenir des localités juives de Judée-Samarie aussi, le futur du système juridique, de la sécurité du pays et notre capacité à empêcher la création d'un État terroriste palestinien, a affirmé Bezalel Smotrich. Et pour finir ce journal, Patrick Bruel, le chanteur français, annonce l'annulation de sa tournée et continue de clamer son innocence.
Depuis plusieurs semaines, des élus et des associations appelaient le chanteur à renoncer à se produire sur scène alors que des dizaines de femmes l'accusent d'agression sexuelle. À ce stade, Patrick Bruel a été mis en examen dans 4 dossiers, notamment pour viol et tentative de viol, et a été placé sous le statut plus favorable de témoin assisté dans 4 autres dossiers. Dans son message sur Instagram, le chanteur justifie l'annulation de ses 35 concerts par un souci d'apaisement, mais assure que cette décision ne signifie en aucun cas qu'il renonce à se défendre. « Je ne laisserai pas dire certaines choses sans les contester. Pour une raison simple, elles sont fausses », écrit celui qui a toujours contesté les accusations portées contre lui. « Je me battrai pour que mon innocence soit reconnue », ajoute-t-il, tout en assurant prendre au sérieux tout ce qui est dit.